aborder le sujet de maladie dans toutes ses dimensions, c'est un peu osé, mais je vais tenter une approche minimaliste, c'est-à-dire je vais essayer de dire des choses vraies sans prétendre tout dire. Je me prends à des choses vraies. D'abord, qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que c'est la maladie, ça s'insère dans tout un contexte. Abdu'l-Bahá, le fils du fondateur de la foi Baha'i, explique que le corps humain est un système dynamique, c'est un système composé d'éléments qui sont en constant réaction les uns avec les autres. Et il dit que la santé, l'état de santé, est représenté par un état stable du système qui provient de la proportion juste des éléments. Donc, d'abord, on a donc une définition de qu'est-ce que c'est la santé. La santé, c'est le juste équilibre, la juste proportion des éléments qui se trouvent dans le corps. Donc, ce que nous appelons la maladie intervient, dit Abdu'l-Bahá, quand il a un changement, enfin, irréversible, si vous voulez, ou qui, parce qu'un système stable est toujours, peut tolérer certainement une certaine variation, n'est-ce pas? En fait, ça peut tolérer une certaine variation. Donc, la maladie se déclare quand il y a un déséquilibre qui va au-delà des limites de tolérance du corps et qui fait qu'il y a donc un changement suffisant dans les proportions des éléments pour causer un mal fonctionnement du système. Alors, il faut tout de suite distinguer deux choses, enfin, comme nous le savons. Les symptômes de la maladie et la maladie. Le symptôme, c'est la dysfonction qu'expérimente la personne qui est malade. Ce n'est pas la même chose que la cause de la maladie, parce que la cause de la maladie, selon Abdu'l-Bahá, c'est ce déséquilibre. Alors, ce déséquilibre peut provoquer toutes sortes de symptômes, maux de tête, maux de ventre, etc. Des symptômes qui sont communs à beaucoup d'indispositions, beaucoup de maladies. Donc, il faut comme nous savons aujourd'hui, enfin, distinguer les symptômes qui sont précisément, comme j'ai dit, le disconfort ou la dysfonction qu'expérimente le malade de la cause de la maladie. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, une chose qui est importante avec cette définition de la maladie, c'est que la maladie n'est pas une force maléfique. C'est-à-dire, le mal et la maladie ont toujours été identifiés, un peu comme le bien et la santé sont identifiés. Et dans l'Occident, nous héritons une tradition qui commence avec au moins, qui remonte il y a 2000 ans au moins, c'est la notion de péché originel, la notion que le mal moral, est une force maléfique, est le résultat d'une force maléfique, un diable, si vous voulez. Donc le mal est une entité. Le mal est une entité, et dans ce sens-là, le bien, c'est l'absence du mal. C'est-à-dire, quand on chasse le mal, quand on extirpe le mal, eh bien, cette force maléfique, on va l'enlever du corps, et à ce moment-là, on aura, encore une fois, la santé. Alors donc cette définition d'Abdu'l-Bahá va à l'encontre de cette tradition, de cette conception, c'est-à-dire la maladie n'est pas une force maléfique, la maladie n'est pas une entité en elle-même, la maladie est un déséquilibre, donc la santé est une entité, mais la maladie n'est pas une entité, c'est la manque de santé. Donc il faut en quelque sorte changer le paradigme. La santé, ce n'est pas l'absence d'une force maléfique, mais la maladie ou le mal est l'absence de la santé, morale ou physique. Bien entendu, ce déséquilibre peut être provoqué par, par exemple, des virus ou des microbes, tout ça. Ça ne contrecarre pas du tout la théorie des maladies infectieuses et tout ça. Mais nous savons, par exemple, que la façon qu'un virus ou d'une bactérie peut provoquer une maladie, c'est que le virus est essentiellement un parasite qui entre dans le corps et qui produit des toxines, enfin qui produit, comme toute chose vivante, les virus et les bactéries ont ce qu'on appelle un cycle de vie, c'est-à-dire ils accomplissent les fonctions vitales, ils mangent, ils excrètent, et puis les toxines produites par l'excrétion, enfin des virus et tout ça, sont souvent très toxiques au corps et ça provoque un déséquilibre de la sorte que dont Abdu'l-Bahá parle. Maintenant, Abdu'l-Bahá dit qu'il y a deux sources de maladies. Il dit qu'il y a les maladies d'origine physique et d'origine spirituelle. Mais ici, on entre dans sur un terrain où il faut vraiment des nuances. La maladie est une. La maladie, c'est ce déséquilibre. Donc, on n'a pas besoin de classifier les maladies comme les maladies spirituelles ou physiques. Il dit, la cause du déséquilibre, la cause de la maladie peut être soit matériel ou physique, ou soit matériel, ou évidemment les deux. Les deux. Qu'est-ce que j'ai dit?
Matériel ou physique ou spirituel.
Enfin,
c'est-à-dire immatériel.
Ok, oui, ok. Merci, oui. Alors exemple. Abdu'l-Bahá donne comme exemple, on a bien d'exemples de maladies physiques, comme j'ai dit, des microbes ou des maladies qu'on attrape, ou une chose très grossière comme un jambe cassée, n'est-ce pas, un traumatisme au corps qui provoque un jambe cassée, mais voilà, c'est une cause physique, c'est évident, etc., etc. Évidemment, la nutrition y est pour beaucoup. Abdu'l-Bahá en parle aussi que si on mange de façon déséquilibrée, de façon persistante, que ça peut provoquer ces choses-là, soit une carence dans certaines substances, comme les vitamines, nous le savons aujourd'hui, ou bien aussi une surcharge de choses comme trop de sucre, par exemple, etc., ou trop d'acide, un corps qui est trop acide, etc. Donc on peut avoir des excès qui causent un déséquilibre ou des carences qui causent des déséquilibres, ou les deux, encore une fois. Donc, ça c'est des exemples de causes matérielles. De causes spirituelles, Abdu'l-Bahá donne un exemple comme une grande peur. Une grande peur, par exemple, on apprend la mort de quelqu'un qui nous est proche, on est sujette à des traumatismes psychologiques, enfin on assiste à des massacres ou des choses, etc. Donc, un grand peur qui, évidemment, un des systèmes dans le corps, c'est le système nerveux. Et donc, les impressions émotionnelles et psychologiques causent des réactions au système nerveux qui peuvent provoquer, enfin, même instantanément, un déséquilibre dans le corps. Maintenant, encore une fois, si j'ai bien compris Abdu'l-Bahá, on ne peut pas dire que si la cause est spirituelle, que la maladie va être plus spirituel que si la cause est matérielle. Je donne un exemple assez clair, je pense. L'angoisse, une des réactions de l'angoisse, c'est le rétrécissement des artères du cœur, n'est-ce pas? Parce que c'est un mécanisme car le corps pour, on rétrécit les artères pour, ça augmente la pression sanguine, ça augmente la vitesse de circulation du sang, ce qui donne une pulsion à l'organisme, enfin pour réagir sur le coup, donc c'est une réaction de défense, si vous voulez, à l'angoisse, enfin, bon. Mais supposons qu'une personne a des artères de cœur qui sont un peu bloquées, n'est-ce pas? Alors le fait de subir cette angoisse peut être juste la chose de plus qui va faire qu'il va avoir une crise cardiaque. Une fois qu'il a une crise cardiaque, c'est une maladie organique, c'est-à-dire vous enlevez la peur, ça ne va pas enlever la condition cardiaque, c'est-à-dire donc ça, c'est une faute peut-être qu'on peut faire parfois, de dire, mais voilà, si la cause est psychologique, si on soigne le côté psychologique, alors la maladie va se résorber, mais ce n'est pas vrai, parce que la maladie provoque des dommages organiques au corps, ça peut provoquer enfin des dommages irréversibles. Donc, ça peut être provoqué par une chose psychologique ou émotionnelle ou ce qu'on appelle le body spirituel, mais ça ne veut pas dire que la maladie elle est spirituelle, que ça flotte quelque part. La maladie est quand même une chose organique, spécifique, mesurable dans le corps, mais qui peut être provoquée par cet état d'esprit. Maintenant, mentionnons les maladies mentales. Nous associons plus facilement les maladies mentales avec les maladies spirituelles. Dans certaines langues, même le mot pour maladie mentale, c'est maladie spirituelle. En russe, c'est la chose. En allemand aussi, on parle de geistige krank. De maladies spirituelles, enfin, geist, c'est l'esprit, comme ghost en anglais, enfin, c'est vraiment, on parle de ça de maladie de l'esprit. Et la même chose en russe, on parle des maladies mentales comme les duhovni maladies, les maladies spirituelles. Mais, alors, qu'est-ce que c'est les maladies mentales? Enfin, on sait encore aujourd'hui que les maladies mentales sont tous des déséquilibres dans le métabolisme du système nerveux et que ces maladies aussi peuvent être provoquées d'une façon purement physique. Par exemple, c'est une forme de schizophrénie sans génétique, c'est-à-dire si une personne est suffisamment... S'il est assez malchanceux d'avoir un certain héritage, il est presque inévitable qu'il va avoir la schizophrénie à un jeune âge et tout ça. La schizophrénie comme entité est un déséquilibre dans le fonctionnement du cerveau qu'on peut mesurer, mais la cause de ça peut être purement physique. On peut même induire la schizophrénie en injectant certaines substances dans une personne normale, n'est-ce pas? Mais il y a aussi les causes spirituelles qui peuvent donner lieu à des maladies mentales. L'exemple qui est le plus facile, c'est la dépression, parce qu'on connaît maintenant le mécanisme de la dépression, que la dépression, c'est... C'est-à-dire, si le système nerveux est sujet à une surcharge électrique, une surcharge de tension, pendant trop de temps, ou une grande surcharge de tension ponctuelle, Le corps réagit en coupant les connexions entre les neurones. Parce que, comme tout le monde sait, enfin, je veux juste rappeler ça, le cerveau est un vaste réseau électrique. Vraiment comme un réseau électrique. Mais les connexions entre les neurones ne sont pas directes. Il y a ce qu'on appelle la fente synaptique, c'est-à-dire il y a un espace entre les dendrons et les axons, les dendrites et les axons, excusez-moi, et cet espace est comblé par un potentiel électrique qui est créé par la sécrétion des hormones dans le cerveau, dont une des hormones d'ailleurs est la même chose que l'adrénaline qui est sécrétée par le cortex rénal aussi, la norepinephrine. Il y a la sérotonine aussi, il y a d'autres. Alors, donc la sécrétion de ces substances à la fente synaptique d'un côté crée un potentiel électrique. Il y a donc l'étincelle électrique qui passe, ça décharge ce potentiel, ça décharge le potentiel, et ces substances sont résorbées, et le cycle recommence, n'est-ce pas? Alors donc, si on pense deux secondes, on voit que c'était une façon assez subtile de créer le cerveau, parce que supposons, juste pour un moment, que le cerveau avait des connexions directes, qu'il n'avait pas cette fente synaptique, alors le cerveau humain serait comme un grille-pain. Ça serait comme un grille-pain. Le premier grand choc, ça brûlerait le cerveau complètement, n'est-ce pas? Personne ne survivrait à ça, n'est-ce pas? Donc c'est un système de protection qui est enchâssé dans le système nerveux, qu'il n'y a pas de connexion directe. Donc, ce qui arrive, comme je dis, si le système nerveux est sujet à une trop forte tension pendant longtemps, ou éventuellement, comme je dis, une très très forte tension intense, momentanée, ça stoppe la production de ces hormones, de ces neurohormones, et ça empêche que le transfert électrique se fasse entre les synapses. C'est exactement un peu banal comme analogie, mais c'est quand même explicatif. C'est exactement comme si vous avez un hôtel qui a 100 chambres, qui sont tous occupés, et tout d'un coup, vous fermez 50 des chambres. Il y a seulement 50 qui fonctionnent. Alors, imaginons, ben, j'ai juste pensé à ça, mais supposons que vous découvrez une faiblesse dans le bâtiment, que si toutes les chambres sont occupées, le bâtiment risque de s'écouler. Donc, vous fermez la moitié des chambres, comme ça, vous pouvez fonctionner avec les autres moitiés sans danger parce que vous avez enlevé le poids. Bon, je ne dis pas que c'est très intelligent comme analogie, mais ça illustre un peu le principe. C'est-à-dire que la dépression, est précisément, survient quand il y a cette sous-production des neurohormones qui empêche qu'un certain nombre des chambres, c'est-à-dire les neurones dans le cerveau, fonctionnent. Tout simplement, et donc, la dépression, c'est extrêmement désagréable comme maladie, mais, encore une fois, la dépression comme telle est un symptôme, exactement comme la fièvre ou autre chose, c'est-à-dire, on souffre des symptômes, la cause c'est ce manque de neurohormones, et cette chose-là est une protection, exactement comme les cellules blanches, par exemple, qui s'attaquent à l'infection, la rougeur, la fièvre, enfin, le pu, enfin, toutes ces réactions sont dues à l'action des cellules blanches, n'est-ce pas, en fait, qui s'attaquent aux microbes. Donc, ce qui produit les symptômes, c'est la défense du corps, dans ce cas-là. Ce n'est pas la maladie, mais c'est vraiment la défense du corps qui produit les symptômes. C'est la même chose. Le corps se défend contre cette tension, cette trop grande tension dans le système nerveux, et ça cause un symptôme qui est la dépression. Et nous savons maintenant, nous pouvons, ça peut être guéri dans la plupart des cas avec, avec des médicaments qui maintiennent, enfin il y a deux sortes de médicaments, ceux qui stimulent la sécrétion des neurohormones, mais d'autres aussi qui empêchent la réabsorption des neurohormones, ce qui est la forme la plus adéquate, parce qu'on a trouvé que la forme de médicaments qui stimule carrément la production des neurohormones, habituellement, ça amène à un état d'agitation assez grand, parce que c'est trop. Donc, il suffit habituellement simplement d'empêcher l'absorption trop vite des neurohormones, ça prolonge l'action des neurohormones, ça suffit habituellement pour dissiper la dépression. Mais où je veux en venir avec tout ça, c'est la chose suivante. On peut très bien imaginer qu'exactement la même cause spirituelle provoque la dépression chez une personne et une crise cardiaque chez une autre. Donc, dans une quelque sorte, on ne peut pas dire que la maladie mentale est plus spirituelle ou moins physique qu'une crise cardiaque ou un ulcère, n'est-ce pas? Les deux peuvent être la réaction du corps au même identique choc, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comme une personne, un médecin a dit, que le corps va céder à l'endroit le plus faible. Pour une personne, ça peut être le système nerveux, pour une autre, ça peut être l'estomac, les ulcères, ou pour une autre personne, ça peut être le stress, oui. Oui. Le stresseur peut être le même. Ok, le stresseur peut être le même. On apprend la nouvelle qu'une personne chère est morte ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le stresseur et ça provoque un stress qui est la réaction non spécifique du corps à cet événement. Et ce stress peut effectivement provoquer une crise cardiaque chez l'un et une dépression chez l'autre, etc., etc. Donc, pour résumer, Abdu'l-Bahá dit très bien qu'il a des causes plutôt spirituelles, ou on peut dire psychologiques, émotionnelles, etc., et des causes plutôt matérielles. Mais la maladie, c'est une entité physique, dans tous les cas. Maintenant,
tu as dit que la maladie
n'est
pas une entité, c'est la santé qui
est une entité. Ah, j'excuse, je voulais dire la santé, oui, c'est ça. Oui. Ou la maladie aussi est une entité physique, je ne veux pas dire une force, c'est un état physique, disons. La maladie est un état physique, pas une entité physique, un état physique, ok. Qui peut être provoqué par un état psychologique, mais la maladie, ce n'est pas l'état psychologique, la maladie, c'est l'état physique provoqué par le stress psychologique. C'est ça le point. Okay. Maintenant, Abdu'l-Bahá dit aussi qu'il y a deux façons de soigner les maladies. C'est ce que j'ai dit à lui tout à l'heure. Par des moyens matériels et par les moyens spirituels. Alors, on aurait pu penser que Abdu'l-Bahá offre une philosophie de la maladie qui dit, mais voilà, si la cause est plutôt spirituelle, il faut avoir recours à des moyens spirituels, et si la cause est plutôt matérielle, il faut avoir recours aux moyens matériels. Il ne dit pas du tout ça. Il dit, il faut savoir qu'il a les deux moyens de guérison, spirituel et matériel, et qu'il faut, dans tous les cas, employer les deux. Donc, ce n'est pas une séparation que le cure, si vous voulez, c'est-à-dire que la guérison va avec la cause, parce que ce n'est pas la cause de la maladie c'est le déséquilibre provoqué par la cause. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il entend par moyen spirituel? Principalement la prière. On peut, si l'on veut, appeler la prière la force de pensée. Et évidemment, c'est plus que ça, parce que ça invoque aussi l'aide de Dieu, ça invoque l'Esprit de Dieu de nous aider. Mais nous savons aussi que l'attitude du patient et tout ça, donc la force de pensée, la volonté du patient, peut avoir une très très grande influence sur la guérison aussi, n'est-ce pas? Donc, on peut aussi retourner les choses dans l'autre sens. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé le monde de telle façon à ce que toute la guérison peut être spirituelle? C'est-à-dire, puis si l'homme est une créature fondamentalement spirituelle, et puisque la prière peut aider la guérison, voire même provoquer la guérison, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas arrangé les choses telles qu'on peut guérir toutes les maladies par les moyens spirituels? Il y a différentes réponses possibles à cette question. D'abord, il faut constater que dans la foi bahaï, il fait partie de la foi bahaï qu'une personne malade consulte un médecin. C'est-à-dire que c'est dans le livre des lois bahaï, une des obligations morales qu'a un bahaï, quand il est malade, c'est de consulter un médecin. Et un médecin spécialiste, disons un médecin qui, comme Abdel Bahadi, a étudié un système scientifique de médecine. Ça ne veut pas dire donc un guérisseur quelconque, une personne qui va mettre les mains sur le front et tout ça. Oui. Donc, du point de vue bahaï, la science médicale a une dimension morale. C'est ça que j'essaie de dire. La science médicale a une dimension morale. Et du point de vue et du médecin et du patient, parce que le patient, du point de vue bahaï, s'il est bahaï, il est obligé, il a une obligation morale de se faire soigner. Il doit aussi prier, il doit se tourner vers Dieu. Mais s'il dit, moi, j'ai connu par exemple des bahaïs qui tombent dans la dépression, ils disent, mais je veux guérir ça par la prière, puis ça ne fonctionne pas. Mais là, il n'observe pas ce que Baha'u'llah dit dans le Kitab al-Aqdas, que quand on est malade, il faut consulter un médecin. Même il y a eu des cas, des personnes atteintes de maladies mentales qui ont écrit à Shoghi Effendi. Shoghi Effendi, c'est le gardien de la foi bahaï qui est mort en 1957 et qui a été désigné l'interprète des écrits de Baha'u'llah. Alors, il y avait même une personne qui a écrit à Shoghi Effendi, a dit il était dans un hôpital psychiatrique, ça était dans les années 30. Alors, il demandait à Shoghi Effendi, est-ce que c'est bon ou non de subir le traitement d'électrochoc? Shoghi Effendi a dit, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin. Baha'u'llah a dit, consultez les médecins. Donc, il faut suivre le traitement médical tel qu'il est prescrit par les médecins. Mais il ajoute quand même une chose intéressante, il dit, mais il faut que vous sachiez que ces maladies mentales sont entièrement physiques, que ce ne sont pas les maladies d'âme, et même si vous mourrez avec ça, dans l'autre monde, vous aurez un état d'âme normal, enfin, que ce ne sont, sont pas des maladies spirituelles, ça n'a aucune influence sur l'âme de la personne. Ce sont comme des voiles qui interviennent entre l'âme et le corps, pour ainsi dire. Donc là, il a profité pour réitérer ce fait qu'Abdou Bah a déjà dit, que la maladie est un état physique, même si ça peut être provoqué par une cause plutôt spirituelle. Donc il faut les deux, il faut le recours aux moyens médicaux et matériels, comme dit Abdou Bah, et aussi la prière. Maintenant j'ai vu, j'imagine comme tout le monde, enfin j'ai vu toutes les combinaisons possibles. J'ai vu des gens qui ont vraiment guéri le cancer par la prière, enfin qui les médecins ont déclaré qu'ils étaient inguérissables, et j'ai vu ça. Et j'ai vu de l'autre côté les gens qui ont prié, enfin qui ont fait tout dans leur possible et ça ne semble pas avoir guéri leur maladie, etc. Ils prennent tous les médicaments possibles et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors, j'ai juste deux ou trois choses à dire et puis j'ai terminé. Parce que là, on entre vraiment dans le côté spirituel de la maladie. D'abord, Abdu'l-Bahá dit une chose très intéressante. Très, très intéressante. D'abord, donc, on se rappelle que la foi bahaïe enseigne le recours aux moyens matériels. La science de la médecine, ça vient de Dieu, comme dit Abdu'l-Bahá. Cependant, Abdu'l-Bahá dit, toute guérison est strictement selon la volonté de Dieu. En réalité, dit-il, les médicaments ne sont comme des symboles. Et c'est Dieu qui guérit. Alors, seul Dieu guérit. Toute guérison vient ultimement de Dieu. Et il dit que, comme je dis, il dit en anglais token. Il dit les médicaments, tous les médicaments que donnent les médecins ne sont que des tokens. Et ça ne guérit pas, à moins que Dieu permette que ça guérisse. Maintenant, deuxième chose, si toute guérison est entre les mains de Dieu, ça veut dire, dans une certaine mesure, que Dieu permette ou même décrète que certains gens vont être guéris et d'autres ne vont pas être guéris. Alors Abdu'l-Bahá parle de ça. Il dit, si c'est la volonté de Dieu que la guérison ait lieu, la guérison aura lieu. Si la personne suit enfin la procédure enfin qui a été proscrite, c'est-à-dire il va prier, il va se tourner vers Dieu et en même temps il va suivre un traitement médical approprié. Il dit, si c'est la volonté de Dieu, il sera guéri. Il dit, mais pour certaines personnes, le fait de la guérison ferait plus de tort que de bien. Et donc, par amour de ces personnes, Dieu n'octroie pas la guérison. Parce que là, on vient donc, en fin de compte, rappelant que toute maladie, comme la vie physique même, est temporaire. N'est-ce pas? Il y a cette ultime maladie qui est la mort, n'est-ce pas? Donc, toute guérison est temporaire, ça c'est évident. C'est-à-dire, aussi guéri qu'on peut être, tôt ou tard, ce corps va se désagréger. Tôt ou tard, c'est ce qui nous attend. Et la foi bahaïe nous dit que le but de notre vie, c'est le développement spirituel, le développement de nos âmes. Et donc, le fait de la maladie, le fait des souffrances dans ce monde, a un but par rapport à ce développement de l'âme. Nous pouvons parler ça dans la discussion. Il ne faut pas entrer là-dedans. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à ça. Question d'humilité, question d'ego, question de dépendance sur les autres, question de compassion entre les êtres humains. Enfin, il y a toute une dimension du pourquoi de la maladie, du point de vue spirituel. Okay. Mais en tout cas, Abdu'l-Bahá dit que dans tout cas, Dieu octroie la guérison, sauf que dans certains cas, pour des raisons que les gens ne peuvent pas comprendre, le fait de guérir fera plus de tort que de bien à l'âme de la personne, ou si vous voulez, au développement spirituel de la personne. Par exemple, je vous raconte juste une histoire là-dessus. Il avait un Bahaï, John Esselman, qui avait de tuberculose. Et Abdu'l-Bahá, qui a fait beaucoup de guérisons spirituelles, enfin, qui sont vraiment documentées, okay, c'est pas du tout, il a fait ça devant beaucoup de personnes. Un jour, Esselmont avait demandé à Abdu'l-Bahá s'il ne pouvait pas le guérir de la tuberculose. Il a dit, si, je pourrais le faire, mais ça serait mieux pour toi de ne pas le faire. du point de vue spirituel. Et à ce moment, je dis, ok, dans ce cas-là, je renonce complètement à la guérison physique. Dans un autre cas, il avait un aveugle qui est venu vers Abdu'l-Bahá, et il a dit, est-ce que vous pouvez guérir ma cécité? Et Abdu'l-Bahá a dit, oui, je peux, mais si vous avez la vue physique, vous allez perdre la vue spirituelle. Alors il a dit, dans ce cas-là, je refuse, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ces choses-là? Là, on peut discuter encore une fois, mais ça c'est quand même la dimension spirituelle. Il faut se rappeler donc que toute cette histoire de guérison et de maladie a lieu dans un cadre plus grand qui est le but de notre existence, qui est le développement spirituel. Et donc, quand nous raisonnons de la façon simpliste, en disant, mais voilà, je suis frappé par la maladie, donc Dieu ne m'aime pas, ou j'ai fait un péché, je suis puni, etc. C'est vraiment beaucoup trop simpliste de penser de cette manière-là, que même les hommes les plus saints étaient malades, Baha'u'llah était malade, Abdu'l-Bahá était malade, et la maladie, comme Abdu'l-Bahá explique, fait partie du plan de Dieu pour cette vie. Il a toujours donc une dimension spirituelle à chaque maladie. Il a quelque chose, si vous voulez, à découvrir en soi par rapport à chaque maladie. Je termine juste en vous disant la chose suivante. Il y a par exemple un groupe à Montréal, je sais ça par un ami qui est psychiatre à Montréal, il y a un groupe de personnes qui sont soit atteintes de maladies mentales ou qui ont été atteintes de maladies mentales, assez graves, enfin, toute forme de maladie mentale, la schizophrénie, la dépression et tout. Ce groupe se réunit une fois par semaine et ce groupe a l'unique but de s'aider mutuellement les uns aux autres, découvrir la raison spirituelle pour leur maladie. C'est pas un groupe de support, c'est pas un groupe de guérison, etc., etc. C'est rien de cela. Ils ne parlent pas du tout de guérison. Ils disent, on veut s'aider mutuellement à comprendre pourquoi Dieu m'a infligé ou a permis que je sois affligé de cette façon-là. Et c'est, donc, quand on me dit, ils cherchent leur but spirituel de ce qu'ils ont vécu. Donc, dans toute maladie, dans toute expérience de maladie, il y a un but spirituel sous-jacent. Et pour nous, la chose la plus importante, même plus importante que la guérison, c'est la découverte de cette raison spirituelle qui est sous-jacente à la maladie.